France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai reçu un message d'une auditrice adorable qui explique qu'elle écoute les carnets de campagne tous les jours et que c'est, je la cite, son doudou du midi. J'aime beaucoup cette formule. Sans doute est-elle rassurée et apaisée, comme avec un doudou, en écoutant des gens qui portent des projets utiles et des initiatives positives. Au programme du doudou du midi aujourd'hui, donc, un café des enfants à Grenoble. Un lieu précieux qui traverse une phase difficile financièrement et qui a lancé une cagnotte en ligne pour être soutenu. Le département de l'Isère est à l'honneur toute cette semaine. Et d'abord, jetons-nous à l'eau. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Pourquoi ne pourrait-on pas nager aussi dans d'autres villes de France ? L'ouverture de la Seine à la baignade à Paris l'été dernier a donné de l'espoir à de nombreuses associations qui militent pour autoriser la baignade urbaine chez eux. Et c'est le cas notamment à Grenoble. Bonjour Élise Lemercier.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste et membre des Gens qui ont chaud, association très bien nommée et très récente. Elle a été créée au printemps 2025. Alors, vous pratiquez la baignade militante ?
Oui, exactement. À Grenoble, on se baigne depuis cet été dans l'Isère et dans le Drac.
Pourquoi est-ce qu'il est essentiel, selon vous, d'autoriser la baignade dans l'Isère et dans le Drac, qui est un affluent de l'Isère ?
En fait, le droit nous dit que c'est déjà autorisé de se baigner dans les rivières de manière générale. Et donc déjà dans l'Isère et dans le Drac, on a le droit. Mais c'est vrai que les gens le savent peu. Et donc nous, on est un collectif qui promeut la baignade dans ces deux rivières-là parce qu'il fait chaud à Grenoble. On sait que dans les Alpes, le climat se réchauffe deux fois plus rapidement qu'ailleurs. Nous, on a fait des relevés de température jusqu'à 46 degrés l'été dernier. Donc voilà, il fait très chaud. Directement à proximité, il nous faut des points de fraîcheur dans ce qu'on appelle la cuvette grenobloise.
Alors, il y a des freins culturels, hein, c'est peu de le dire, qui sont bien ancrés à la baignade urbaine.
Oui, en fait, ces deux rivières-là, elles sont principalement productives, en fait. Elles servent vraiment à produire de l'électricité. Donc, on les a endiguées, elles sont productives, et en fait, on se sent vraiment loin culturellement de ces deux rivières-là. Il y a aussi eu, malheureusement, en 1995, un drame où des enfants sont décédés dans le Drac à cause des lâchers soudains des barrages. Et puis, on nous dit aussi que c'est pollué, voilà, et c'est vrai que des fois, on ressort quelques petits vélos de la rivière, mais comme dans toutes les rivières urbaines. Mais en fait, voilà, nous, on a fait des prélèvements qui montrent que, en fait, c'est d'une très bonne qualité.
Vous parliez à l'instant du drame de 1995, hein, cette sortie scolaire qui a très mal tourné. Il est là l'argument principal de ces arrêtés qui interdisent la baignade. C'est pour des raisons de sécurité.
Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on aille se baigner le 5 juillet dans le Drac, en fait, on savait pas, mais la baignade était interdite jusqu'à un endroit qui s'appelle le Rondeau. Et ensuite, en aval, c'était possible. Mais effectivement, les deux maires des communes dans lesquelles on est allé se baigner ont posé des arrêtés parce que ils ont peur, légitimement, en fait, de ces lâchers d'eau. Mais en fait, on a des moyens d'information. Il y a un site internet qui s'appelle Vigicru, sur lequel on peut regarder les montées de l'eau. Donc, en fait, c'est juste une information à avoir et aussi une manière différente d'appréhender le risque et la rivière, quoi.
Je le disais, vous êtes urbaniste, Élise Lemercier. Vous avez aussi travaillé sur ce dossier de la baignade en ville en qualité d'urbaniste ?
Oui, en fait, la ville de Grenoble nous a demandé de réaliser une étude pour savoir si c'était désirable et souhaitable de se baigner dans l'Isère. Et c'est vrai qu'avec une approche urbanistique, on peut se dire que oui, puisque Grenoble perd des habitants. On est une des deux métropoles de France qui perd des habitants, sûrement pour le prix des loyers, mais aussi sûrement parce qu'il fait très chaud. Et en fait, si on veut continuer à habiter dans des espaces urbains qui sont de qualité, quoi, eh ben, il faut pouvoir trouver des espaces de loisirs et de fraîcheur à proximité.
On a vu à Paris le succès qu'a rencontré l'ouverture à la baignade de la Seine. Certaines s'en moquaient il n'y a pas si longtemps, hein, de cette idée de se baigner dans la Seine. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience parisienne ?
Ben, ça a été pour nous un tremplin incroyable de se dire que même à Paris, ils ont réussi. Alors bien sûr, il y a eu les JO, mais en tout cas, ça a permis de mettre à l'agenda politique ce sujet-là. Nous, en gros, ce qu'on se dit, c'est que on peut dépolluer des rivières et en fait mettre des humains dans l'eau, ça prouve aussi vraiment que ça fait changer une ville. Pour nous, c'est vraiment une expérience incroyable.
Des exemples à l'étranger aussi.
Oui, ben nous, on est assez proche de la Suisse. À Berne et à Bâle, notamment, il y a des images incroyables de gens qui vont au travail en se laissant porter par la rivière. Il y a des vitesses jusqu'à 3 mètres seconde dans l'Ar à Berne. Et nous, dans l'Isère et dans le Drac, on est à peu près à 2 mètres seconde. Donc, en fait, ça veut dire que c'est aussi possible de se baigner dans des rivières qui sont des rivières alpines. Et, voilà, s'il suffit juste de changer d'approche culturelle.
Aller travailler en se baignant, ça veut dire prendre un petit bidon pour ses affaires, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Et puis on peut rêver et puis avoir des vestiaires dans lesquels on peut se changer. Enfin voilà, ça c'est une toute autre approche de la vie urbaine.
À titre personnel, sincèrement, Élise, vous n'êtes pas dégoûtée à l'idée de vous baigner en ville dans une rivière? Je pose la question parce qu'à Paris, c'était vraiment le sujet de conversation entre ceux qui se baignaient et les autres.
Bah, je peux comprendre. Au sein même du collectif, il y en a qui préfèrent aller se baigner dans le Drac parce que l'eau est plus belle, elle est bleue. Moi, j'ai une petite, je penche pour l'Isère parce que je trouve que ça donne une toute autre approche de la ville. Enfin, on se laisse bercer et puis on voit les montagnes autour. Donc, non, ça me dégoûte pas du tout. Au contraire, ça a vraiment changé mon rapport avec cette ville dans laquelle j'habite depuis 15 ans.
Et puis, se baigner dans le Drac et dans l'Isère, ce serait aussi une façon de ficher un peu la paix au lac de montagne.
Exactement. Nous, quand on a trop chaud dans la plaine grenobloise, on va se baigner dans des lacs à proximité. Et en fait, ça, il y a une pression humaine et anthropologique sur les lacs qui est énorme. Voilà, on voit les désastres écologiques que ça peut créer. Donc oui, c'est vraiment une manière aussi de mettre en place, j'allais dire, une solidarité territoriale et presque écologique, quoi.
La baignade militante, ça marche aussi en automne et en hiver?
Ouais.
C'est un peu plus engageant hein, comme combat militant.
Exactement, oui. Mais en fait, l'eau froide a aussi vraiment des vertus pour la santé. On n'a pas de date encore prévue, mais cet hiver, en décembre ou en janvier, on va organiser une baignade dans l'eau fraîche du Drac ou de l'Isère.
Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de votre combat avec l'association Les gens qui ont chaud?
Oui, on est super optimiste parce qu'on reçoit plein de messages de soutien et puis on a de plus en plus de membres qui viennent à nos baignades. On discute aussi beaucoup avec les maires des communes qui sont concernées par la baignade. Et puis en fait, à part les freins culturels dont j'ai parlé tout à l'heure, on a vraiment tous les signaux sont au vert pour aller se baigner, notamment d'un point de vue bactériologique. En fait, on est sur une qualité de baignade qui est excellente d'après les critères de l'ARS. Voilà, donc on peut y aller maintenant.
L'ARS, hein, je le précise, c'est l'Agence Régionale de Santé. Voilà, association basée à Grenoble et qui a besoin d'encore plus de militants pour se baigner.
Oui, plus on est de fous, plus on rit.
Les gens qui ont chaud. Merci beaucoup, Élise Le Mercier.
Merci à vous. Bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
La Fondation de France, organisme philanthropique qui soutient des associations partout dans le pays, nous signale régulièrement des pépites. En Isère, elle nous incite à présenter la Soupape, association grenobloise qui a créé un café des enfants dans le quartier des Eaux Claires. Bonjour Pascal Yvetot.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de ce café des enfants, lieu de rencontre hein, qui propose notamment des ateliers de soutien à la parentalité. On entend les couverts, hein, c'est l'heure de déjeuner. Et qui traverse en ce moment une phase un peu délicate. Vous êtes en redressement judiciaire, un problème de ressources financières, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que l'association a été créée en 2008 et le café a ouvert il y a maintenant 15 ans. Ça n'a jamais été vraiment simple en termes de modèle économique. Et c'est vrai que notre budget repose en principe sur 50% de recettes propres et 50% de subventions. Et malheureusement, comme les subventions sont en baisse, ça constitue pour l'instant, à ce jour, un déficit. Voilà, qui nous met un petit peu dans la panade et qui fait que ça nous a mené à être en redressement judiciaire. Voilà.
Quelle est la raison d'être de ce café des enfants, Pascal? Pourquoi est-il indispensable, selon vous?
Parce que les enfants sont les adultes de demain, déjà. Parce qu'on a besoin, enfin, les enfants ont droit à une place à part entière dans notre société. et que d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on s'appelle un café des enfants et pas un café des parents, même si effectivement les deux sont étroitement liés. Il y a pas d'enfants sans parler de parents, il n'y a pas de parents sans parler d'enfants. Au demeurant, nous, on a vraiment souhaité donner une place prépondérante à l'enfant et à le placer au cœur de notre projet, et que ce soit pour une fois plutôt aux adultes, en fait, de s'adapter aux enfants et pas à l'inverse, parce que je pense qu'on demande énormément de choses à nos enfants et que c'est bien parfois de se rappeler que ce sont des enfants et qu'ils ont besoin d'un monde à leur hauteur.
Le café des enfants, c'est donc un café hein, qui propose de la restauration, on l'entend derrière vous, aux parents et aux enfants. Mais vous proposez également des ateliers de soutien à la parentalité, je le disais, et notamment de soutien aux mamans solo. Comment procédez-vous, Pascal ?
Alors, on organise des temps de rencontre autour de la projection d'un film qui s'appelle « Maman solo, les oubliés de la République ». Donc, pendant que des bénévoles psychologues de notre association regroupent les parents, nous, on gère les enfants dans la partie café-jeu. On a organisé également des groupes de parole. Et puis, on propose des ateliers de yoga, parents-enfants et des ateliers artistiques avec une artiste. L'idée étant que les parents solos peuvent venir avec toute leur tribu, parce que souvent, ils ont des enfants d'âge très différents et c'est pas toujours évident de faire des activités avec des enfants d'âge très différents, parce que souvent, c'est très segmenté. Les activités proposées sont segmentées par tranches d'âge. Là, on offre la possibilité de venir en fait avec toute la fratrie. Et du coup, c'est aussi, ça permet des petits moments de répit, ça permet aussi des petits moments de loisirs en famille, en dehors du domicile. Parce que ces familles et ces mamans, elles s'accordent, elles s'octroient pas beaucoup de temps de répit. Voilà.
Le café des enfants, ça n'est pas une crèche, ça n'est pas une halte garderie. Comment présentez-vous cet endroit aux parents qui le découvrent ?
On dit qu'on est avant tout un café. Donc un café, c'est quoi en France ? Un café, c'est un lieu de rencontre et un lieu de retrouvailles. Donc nous, on s'inscrit bien évidemment dans une vie de quartier, mais on rayonne aussi bien au-delà. Donc on est un lieu, un café adapté en fait à un public familial avec des jeux, des livres, un petit jardin, une petite bulle en fait, une parenthèse dans le quotidien des familles et dans le quotidien des enfants qui est bien 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 rempli.
Est-ce que vous diriez que ça a du sens d'autant plus dans un quartier comme celui des Eaux Claires à Grenoble ?
Oui, parce qu'on crée des passerelles en fait. Nous, on est situé non loin de plusieurs quartiers dits sensibles. Donc oui, ça fait du sens en tout cas d'essayer de créer des ponts, des passerelles en fait avec les habitants de ces quartiers, parce que c'est vraiment l'idée du café des enfants, c'est vraiment d'être ouvert à tous les enfants, quels que soient leurs horizons, quelle que soit leur culture, leur milieu. Le café des enfants est un lieu à la fois très intergénérationnel, parce qu'on accueille aussi beaucoup de grands-parents, mais c'est aussi un lieu de mixité sociale, interculturelle. En tout cas, nous, on accorde extrêmement d'importance à cette ouverture au plus grand nombre.
Voilà, je rappelle qu'une cagnotte est en ligne pour ceux et celles qui voudraient soutenir le Café des enfants qui est en difficulté. Association La Soupape, c'est à Grenoble. Merci beaucoup, Pascal Ifto.
Merci à vous.
Et bonne journée.
Et très bonne journée.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir, merci.